Alors, le sujet, c'est l'Église missionnelle. C'est assez intéressant de voir que chaque été, presque, le Seigneur me surprend, parce que je me prête bien sûr à passer cet été en vous parlant de messages, mais j'ai à cœur que ce soit des messages qui se tiennent un petit peu dans une histoire, dans un contexte, dans un thème. Voilà. Il y a quelques années, j'avais ce thème que j'avais reçu sur l'héritage. L'héritage que nous avons, et j'aime bien que cette frise reste là pour nous rappeler que nous sommes pas, voilà, nous ne naissons pas comme ça de zéro, mais que nous avons des prédécesseurs. Je ne suis pas remonté jusqu'à Jésus, hein. Cette frise, c'est le protestantisme et l'évangélisme, mais ça nous permet de nous rappeler que nous avons des pères, cette nuée de témoins qui nous précède. Et c'est important pour chacun de nous. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment été surpris, mais en même temps pas surpris quand on connaît le Seigneur, que le Seigneur m'a mis à cœur l'Église missionnelle. Alors c'est un thème que j'avais déjà lu au travers de ce livre, hein, je vous recommande cet été si vous avez un peu de temps, qui est de Timothy Keller, Une Église centrée sur l'Évangile. La dynamique d'un ministère équilibré au cœur des villes d'aujourd'hui. Donc, Timothy Keller, quelqu'un qui est bien connu maintenant et qui est un leader dans le monde évangélique et dans Évangile 21 particulièrement. Donc, comment évangéliser dans ce 21e siècle. Et le chapitre qui porte sur le thème que je suis en train de développer avec vous, c'est le chapitre sur l'Église missionnelle, la communauté missionnelle. Qui est la sixième, ce que je vous apporte, c'est dans ce livre. L'Église missionnelle. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Il faut bien sûr commencer d'abord par la définition de ce que c'est qu'une Église missionnelle. Eh bien, c'est un mot qui a été inventé, vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire ni dans Wikipédia, un néologisme s'appelle, un nouveau mot, qui est utilisé fréquemment maintenant dans le monde évangélique. Alors que pendant 20 ans, il a été utilisé dans le monde protestant, comme étonnamment. C'est eux qui l'ont d'abord utilisé jusque dans les années 90, où l'Église évangélique s'est emparée de ce mot et qui maintenant est très très utilisé. Alors, j'ai fait un constat. Je fais un constat quand j'ai pris l'appel que vous avez écrit. Donc, sous la direction du Garvey, quand j'ai pris l'appel qui est sorti, hein, suite à la direction de l'esprit, quand j'ai pris cet appel, eh bien, je me suis aperçu, eh bien, que l'appel évolue. Hein. On aurait pu tomber sur le même appel qu'il y a 20 ans, qu'on a reçu, ou même 30 ans, mais bon, je le remonte à 20 ans parce que pendant les 10 premières années, on a eu pas mal de soucis. Des crises, et il y a 20 ans, on a vraiment construit sur cet appel, donc à partir de l'an 2000. Donc 20 ans de construction sur un appel qui était centré sur la restauration des familles, hein, et on avait bien reçu cette orientation sur les familles, et on a travaillé à cela dans l'Église avec un certain succès quand même, simplement parce que c'est le Seigneur qui a permis que des familles soient restaurées. Et je veux dire que ce sera toujours cet appel, bien sûr, qui va rester au sens où on ne va pas délaisser les familles. Elles seront prises en charge d'une autre manière, mais pas de manière prioritaire. Et le nouvel appel que j'ai lu et que vous pouvez relire, puisque c'est vous qui l'avez produit, eh bien, ça va vers une église missionnelle. Une église missionnelle. Donc, effectivement, c'est un sujet important pour vous de comprendre. Puisque l'Église missionnelle, elle rassemble en fait tout ce que vous avez fait, hein, sous forme. Et ceux qui veulent donc plus d'informations, eh bien, lisez ce livre de Timothy Keller et bien d'autres. Hein. Je crois qu'une vingtaine qui sortent par an, hein, sur l'Église missionnelle. Donc, vous voyez, on n'est pas à court de livres sur l'Église missionnelle. Alors, ce qui aussi m'a frappé, non seulement le contenu de l'appel, hein, que je ne vous rappelle pas ce matin, mais le dimanche prochain, je le rappellerai, qui est le contenu du démissionnaire, c'est que les projets qui sont déjà engagés actuellement, depuis quelque temps, il n'y a pas longtemps, mais depuis quelque temps, eh bien, sont déjà des projets d'église missionnelle. Alors, je m'explique. Je vais juste les citer, mais on aura l'occasion de prier sur ces projets, puisque c'est des projets qui démarrent et qui vont effectivement être cet accompagnement de ces 20 ans qui vont venir, vous voyez, qui sont devant nous. Alors le premier, c'est la coopérative d'activité et d'emploi. Il s'appelle une CAE, ce projet sera conduit par Maggie. C'est un engagement culturel dans l'économie. Économie sociale et solidaire, qui est une économie basée sur la parole de Dieu, qui est le jubilé. Hein. Et cette vision de l'économie, qui a été portée par un pasteur protestant, Charles Gide, au XIXe siècle, a été reprise récemment par beaucoup d'évangéliques, et en particulier Luc Maroni, qui est dans notre réseau, qui est porteur par cette coopérative Connect qu'il a créée en Lens, et auquel, effectivement, est bénéficiaire Tom, que nous avons soutenu, et qui maintenant a son diplôme de maîtrise de l'économie sociale et solidaire, et qui peut exercer dans ce métier de l'économie sociale et solidaire. Et Maggie, qui s'est levée donc il y a quelques mois pour répondre à l'appel, parce que nous avions dans notre volonté d'engagement dans la société d'apporter quelque chose aussi de la culture chrétienne dans l'économie, eh bien ce désir de créer cette coopérative en coopération avec le PTCE, donc Jean-Marc Semoulin, qui est sur les mureaux. Voilà, donc on en parlera un peu à la rentrée. Maggie se prépare à vous présenter son projet, qui a besoin de soutien aussi d'église, de membres de l'Église, pour l'accompagner dans cet engagement culturel dans l'économie. Le deuxième projet, qui est également déjà, enfin, qui vient de se concrétiser, c'est l'ordonnancement de nomination de Colette aux fonctions de conciliateur de justice au tribunal de la justice de Paris. Alors, je ne vais pas vous expliquer exactement en quoi ça consiste, c'est Colette elle-même qui vous le présentera. C'est un engagement dans le domaine de la justice de ce monde, justice civile, puisque elle va représenter, eh bien, la justice, le tribunal de justice de Paris, et elle a reçu, j'ai la lettre de nomination de cet ordonnancement qui a été accordé à Colette par Sophie Bardiot, conseillère chargée de mission de la cour d'appel de Paris. Voilà. Et là aussi, c'est un engagement missionnel, comme vous le verrez tout à l'heure, dans cet esprit d'église missionnelle. Troisième projet, c'est les rencontres de femmes, dont Chimène a parlé tout à l'heure, pour mener des actions pour dynamiser la vie de l'église. Et là, c'est un engagement dans le domaine de relations avec le voisinage, puisque l'objectif, ce n'est pas que les femmes tournent sur elles-mêmes, mais qu'elles puissent contacter le voisinage, l'extérieur, la ville, et même au-delà. Et donc là aussi, c'est un projet missionnel. Vous voyez, je parle de choses concrètes que vous pouvez saisir comme étant de l'ordre missionnel. Un autre projet, c'est la maison de prière pour toutes les nations. C'est aussi de l'ordre missionnel. C'est une ouverture aux autres dénominations d'église, de tout type de dénomination dans la région. Ce n'est pas juste une maison de prière pour nous, mais c'est un centre ici de prière qui va rayonner et sur cette région, et sur l'Île-de-France, et sur la France, et sur les nations, parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné dès la venue dans ce lieu en 1990, quand on a reçu ce lieu. Le Seigneur nous a parlé par prophétie que ce serait une maison de prière pour toutes les nations. Alors ce projet, pour l'instant, c'est moi qui le porte et qui le porterai lorsque je serai déchargé de l'opérationnel par Pierre-André. Et en fait, on est en voie de finalisation des locaux en bas qui seront terminés début de l'année prochaine. Autre engagement, l'engagement dans les conseils municipaux de nos cités. Alors, un engagement dans le domaine de la politique locale, qui est très important. Donc, Florence, actuellement, est, à la suite de sa mère, qui était 25 ans première adjointe, enfin adjointe en tout cas, première après, qui est très très engagée maintenant à Saint-Martin. Hélène aussi, qui est engagée dans quelle ville? Bouziers. Bouviers, pardon. Bouviers, voilà, donc dans ta ville. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que j'ignorerais qui serait dans un conseil municipal? Jérôme a failli l'être. Il a failli. Là, il s'est présenté, mais il n'a pas. Disons, son parti n'a pas gagné. Hein. Il y a combien de personnes dans ceux qui se sont présentés? Deux, peut-être? Qui ont été retenus dans le conseil municipal? Quatre ou cinq. Mais toi, tu n'es pas dedans. Voilà. Mais, en tout cas, c'était son souhait et ça a failli. Voilà, c'est important d'être effectivement présent sur le plan local pour être cette source de lumière et de sel dans le domaine politique. Et l'engagement dans le monde de l'entreprise. Là, par contre, Jérôme est présent dans le domaine du business. Et donc, on a prié la semaine dernière pour voilà, cette rencontre que tu as eue à Carcassonne, je crois, et pour lequel il nous a fait un compte-rendu dans la réunion de prière. Je ne reviens pas là-dessus. Olivier est très, très engagé à Zénica aussi, et bien sûr, chacun dans le monde de son travail. Mais voilà, c'est aussi une nouvelle façon de voir le business sur le plan chrétien, avec un engagement fort hein, pour développer cela. Et donc, ce n'est que le début. Là, déjà, j'en ai cité six. J'en oublie peut-être, mais c'est dans ce sens-là qu'on va aller, voilà, dans les 20 ans qui viennent. Une église missionnelle. Alors, la réécriture de la vision, donc, qui a été faite, nous a, c'est-à-dire vous a, bien sûr, moi je suis sensibilisé aussi, mais au travers de cette réécriture, vous a sensibilisé à la mission, puisque le mot missionnel vient de mission. Et vous avez surtout été sensibilisé dans le cadre de la vision à la mission en tant qu'attention au faire. Hein. Quelle est la mission? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que mission? Et c'est ce que vous avez réécrit dans le cadre de la mission. Et c'est le devoir et l'appel, si vous voulez, de toute église missionnaire que de répondre à cette attente de la mission au faire. Mais la mission se trouve aussi dans des valeurs, les valeurs d'une église missionnelle. Alors, c'est quoi les valeurs? Les valeurs, c'est autre chose que l'identité, c'est autre chose que la vision. C'est simplement la manière de se comporter, une valeur. Hein. Chacun d'entre vous avez des valeurs familiales, vous avez des valeurs patriotiques, vous avez des valeurs, et l'église missionnelle a des valeurs. Et donc, ce sera aussi des valeurs que nous mettrons en avant. Et la mission est partie prenante de manière fondamentale dans l'Église missionnelle en tant que valeur. La mission, comme je le disais tout à l'heure, est une action qui est une obéissance au faire. Jésus a dit à ses disciples, voilà, vous allez, je vous envoie dans les nations pour cette mission, pour évangéliser, etc. Donc c'est une attention à ce que nous allons faire. C'est une obéissance qui est nécessaire à construire notre action. Parce que si nous ne savons pas quoi faire, nous ne savons pas comment agir. Et en tant que disciples, eh bien, nous devons avoir une orientation sur notre action et ne pas nous tromper sur notre mission. Donc, la mission est une action missionnaire, mais la mission est aussi une vie missionnelle. La vie missionnelle est une manière d'être en mission permanente. C'est une façon de vivre l'évangile du royaume. voyez, donc, on a deux approches, l'approche du faire qui conduit à l'action et l'approche de la manière d'être, qui est une posture, qui est une façon d'être. Et c'est dans cette posture que le Seigneur veut nous emmener, puisque c'est vous-même qui avez écrit cet appel dans les 20 ans qui viennent, qui est une posture. Et vous avez un très bel exemple dans Michel, qui a cette posture d'être missionnel à chaque instant de sa vie avec ses petits bleus, qui l'aident. C'est une aide super, hein. C'est pas un but en soi, mais c'est un moyen, et il insiste bien là-dessus, que c'est un moyen pour évangéliser, pour apporter l'évangile. Et ça, c'est une vie missionnelle. Tu as une vie missionnelle. Voilà. Mais ce n'est pas la seule manière, puisque tout à l'heure j'ai parlé du business, j'ai parlé des politiques, j'ai parlé voilà, toutes sortes de manières d'être missionnel. Alors, le fondement politique, le fondement biblique, pardon, je l'ai abordé déjà dimanche dernier, donc je ne vais pas me pencher là-dessus, puisque vous avez une prédication de dimanche dernier, je vais juste le rappeler. Que le fondement biblique de l'Église missionnelle, c'est dans 2 Pierre, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes, donc c'est l'identité de l'Église missionnelle, vous êtes, c'est une identité, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Et vous, ça, c'est notre identité missionnelle. Une race, un sacerdoce, donc des prêtres, une nation, des citoyens, un peuple qui a des valeurs, des valeurs nationales, patriotiques, etc. Et notre patrie, c'est la patrie céleste, bien sûr, le royaume de Dieu. Afin, dit Pierre, d'annoncer les vertus. Les vertus, c'est les valeurs, hein, c'est la même chose. Les vertus et les valeurs, vous voyez, d'annoncer les vertus. Vertus, c'est la posture hein, des Romains qui avaient le courage, qui voilà, c'était des valeurs. Et donc, des vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons annoncer les valeurs du royaume dans notre attitude, dans notre posture, dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre. Donc, Pierre décrit ici l'identité de l'Église en faisant allusion à deux moments. Le premier moment, c'est dans Exode 19, c'est au mont Sinaï, quand Dieu a constitué le peuple, ce peuple qui lui appartient en propre. Hein. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Exode 19. Et dans Ésaïe 43, lorsque Ésaïe évoque l'exil à Babylone, hein, puisque le peuple n'avait pas respecté l'alliance et était exilé, Dieu déclare: J'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Voyez-vous, c'est encore une posture. Une posture missionnelle, une posture, une attitude missionnelle, une attitude d'être en mission, de publier les louanges pour que les gens voient, au travers de notre attitude, de notre joie, de publier les louanges, qui voient que Dieu est au milieu de nous. C'est pour ça qu'on tient aussi Moving Glad, c'est aussi un projet missionnel qu'on va reprendre, bien sûr, qu'on a déjà commencé, pour que nous puissions être ce peuple qui publie les louanges du Seigneur. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, Pierre déclare cette identité missionnelle qui est accomplie dans l'Église. Il dit: « Bien-aimés, je vous exhorte, en tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite. » Voyez-vous, c'est l'attitude, c'est notre conduite. C'est un peu comme dans le couple, il est dit qu'à la femme qu'elle doit avoir une bonne conduite pour gagner le mari, hein, plus que les parents. Donc, à vous abstenir, désir de la chair, au milieu des païens, il y a une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, qu'en faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Voyez-vous, c'est une attente de la visite du Seigneur par son esprit, mais en attendant, nous devons apporter un bon témoignage du royaume que nous représentons, que nous incarnons, dans lequel nous sommes. Et ça, c'est des valeurs. Et ça, c'est l'attitude d'une Église missionnelle. Une vie missionnelle, en fait, consiste en ce que toute notre vie soit orientée vers la mission. Toute notre vie soit orientée vers la mission. La mission ne se limite pas à des campagnes d'évangélisation, comme Billy Graham, c'était super, mais ça ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas à des activités ou des formations à la mission, bien que celle-ci puisse en faire partie. Mais au lieu de cela, c'est la vie entière qui est vécue avec une intention, une intentionnalité d'être missionnel qui est ancrée dans la mission. C'est la manière dont nous vivons en tant qu'amis, voisins, collègues de travail, collègues du bureau ou membres d'une famille qui est façonnée par notre engagement à proclamer Christ, à proclamer son royaume. Donc le point de départ de cette vie missionnelle, donc la logique de Pierre a toute son importance, c'est que il n'y a pas que ces lecteurs qui seront des missionnaires dès le moment où ils commenceront à vivre de manière missionnelle, mais ils rappellent qu'ils sont d'ores et déjà des missionnaires. Nous ne devenons pas des missionnaires, nous sommes des missionnaires. C'est là tout le sens de l'Église missionnelle. Alors, la réflexion théologique qui sous-tend ce concept d'Église missionnelle, elle a été faite par un révérend, disons, du protestantisme des années 1950, dans l'Église presbytérienne, donc réformée, anglaise. C'est Leslie Newbegin. Newbegin comme nouvelle naissance presque. Leslie Newbegin. Leslie Newbegin donc a développé cette notion d'Église missionnelle. C'est, comme je le disais, un nouveau mot qui est apparu dans les années 70. Et c'est pour introduire l'Église occidentale, donc nous, en Occident, dans une mission missionnaire dans sa propre culture, suite au déclin de la foi et la montée du sécularisme. Le sécularisme, c'est le siècle présent, le siècle dans lequel nous vivons, dans lequel les gens mettent toute leur vie, tous leurs projets, etc., puisqu'ils ne croient pas à l'au-delà. Donc c'est le siècle présent dans le sécularisme et le rationalisme des Lumières, donc la raison toute puissante des Lumières. L'Évangile doit être une vérité publique et visible dans le monde par l'engagement du chrétien comme un modèle du Christ serviteur qui donne sa vie. Tout chrétien doit tisser les Lumières. C'est bien sûr quelque chose qu'on connaît, mais la notion d'Église missionnelle a été introduite par Leslie Newbegin. Alors, comment ça s'est produit ? Eh bien, en fait, Leslie Newbegin était envoyé en mission dans les années 50 en Inde. Et en Inde, il a vécu pendant 20 ans là-bas, sur le champ de mission. Et quand il est revenu en Angleterre, sur sa base, il a eu un choc culturel qui est absolument phénoménal. Le choc culturel de voir que l'Angleterre, mais pas que l'Angleterre, la France aussi, dans les années 70, eh bien, le christianisme avait pratiquement disparu. Il y a eu un choc considérable, pour ceux qui n'ont pas réalisé cela. Moi, je l'ai réalisé parce que j'étais très engagé dans l'Église catholique en tant que servant de messe, etc. Et j'ai vu effectivement ce choc où, dans ma ville qui n'est pas très grande, mais plusieurs milliers d'habitants, on était 1000 personnes à la messe le dimanche. Et là, actuellement, il n'y en a peut-être plus que 40. Et en l'espace de quelques années, ça s'est produit. Dans les années 70, toutes les églises se sont vidées. Et en particulier les églises multitudinistes, c'est-à-dire ceux qui amènent des multitudes, qui baptisent les enfants, qui sont chrétiens à la naissance, que ce soit les catholiques ou les protestants, luthérans, réformés, qui laissent rentrer tous ceux qui se disent chrétiens sans forcément avoir passé par la nouvelle naissance, mais toutes ces églises se sont vidées. Et se sont vidées. Et du coup, l'Occident s'est sécularisé, complètement sécularisé, à tel point qu'aujourd'hui, même dans l'Église catholique, il y a une scission très très forte entre les traditionalistes qui veulent revenir avant Vatican II, parce que c'était aussi la période de Vatican II, hein, où ceux qui se sont ouverts à la parole de Dieu sont appelés des protestants chez les catholiques. Et ceux qui disent, bah oui, c'est parce qu'il y a eu Vatican II que l'Église s'est vidée, alors que ce n'est pas le cas. Mais ils pensent ça. C'est pour ça que maintenant, ils reviennent en arrière. Voilà. Ils reviennent, deviennent conservateurs. Le conservatisme... Et là, pour penser que si on revient en arrière, on va retrouver les mêmes choses. Ce qui est totalement faux. Donc, ces années 50-60, surtout les années 60, c'est la décennie de la crise de l'autorité, comme vous le savez. Hein. À Paris, c'était dans les bouches des métros, c'est marqué « il est interdit d'interdire ». On n'a plus droit de rien faire. L'autorité n'a plus aucun droit sur nous, si ce n'est que l'individu a le droit suprême sur lui-même. Donc la crise d'autorité, que ce soit des leaders, que ce soit des institutions, donc on a balancé les institutions, qu'elles soient religieuses ou autres, et aussi on a balancé les mœurs. On fait ce qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut. Et... donc le rejet du christianisme, qui à l'époque était la culture de l'époque. Et c'est pour ça qu'on voit une différence entre les personnes qui viennent des îles encore, soit Martinique ou Haïti, etc., où vous n'avez pas vécu ce choc de la même manière qu'en Occident, bien que vous fassiez partie de nous, mais que vous n'avez pas eu ce rejet massif comme nous l'avons eu, bien que... ça se répand très vite, hein. C'est une maladie qui se répand très vite, le rationalisme. Donc, Leslie Newbegin a constaté ça, mais avec un choc absolument complet. Et il a souligné quelque chose qui est intéressant, c'est une division, ça nous le connaissons, hein, vous le connaissez tous, une division entre la vérité publique et la foi privée. Voyez-vous, à partir de ce moment-là, il y a eu un dictat qui s'est produit, hein, où la vérité publique ne doit pas contenir la foi, donc interdiction de parler. Moi, je sais que en Alsace, on est encore sous le régime du concordat. Hein. Donc, on avait les croix dans les écoles catholiques. Moi, j'ai fait public, hein, catholique, public protestant, public juif. Il y avait trois écoles, hein, etc. Et aujourd'hui encore, il y a ce concordat. Mais ils ont quand même enlevé les croix aussi, hein, même dans les écoles privées. Voyez, parce qu'on voulait enlever la foi dans le domaine public. Pourquoi ? Parce que c'est la raison qui est objective. Hein. La foi, elle est subjective. Donc chacun croit ce qu'il veut. Et la raison, elle est universelle. Avec la raison, pensait-on, on pouvait arriver à connaître la vérité. La vérité est connue par la raison. Sachez que ceux qui pensent encore comme ça, ils sont un peu à la traîne. Hein, parce que ceux qui sont en quête de sens... ils se sont aperçus que la raison a conduit aux deux guerres mondiales, hein, qui ont été une catastrophe, et qu'avec la raison, on pouvait construire des machines à tuer comme jamais auparavant on a fait. Donc du coup, la raison en a pris un coup, mais il y en a qui restent encore conservateurs sur la raison des Lumières. Mais il y a des chercheurs qui cherchent du sens et qui retrouvent le sens de la transcendance, de cette foi privée qui rentre dans leur compréhension. Et j'étais au bénéfice de cette réflexion qui, aujourd'hui aussi, est actuellement en train, en tout cas dans les milieux intellectuels, de chercheurs, reprend vie. Mais dans le monde naturel, populaire, tout ça s'est évacué. Donc, Leslie Newbegin a souligné cette division que nous connaissons aujourd'hui entre la vérité publique et la foi privée. La vérité publique, c'est la vérité utilisée dans la vie publique, dans la politique, dans les médias, dans l'éducation, dans la science, dans la culture. Vous voyez que même aujourd'hui, avec le coronavirus, cette vérité publique commence aussi à battre de l'aile avec ce que les savants connaissent, connaissent pas, etc. Et puis la montée de l'opinion, bien sûr, dans les réseaux sociaux, où chacun pense que son opinion est au-dessus même de la connaissance scientifique. Donc on est dans un foisonnement absolument incroyable de connaissances où chacun veut avoir raison. Et c'est toujours la raison qui domine dans ces cas-là. Dans la vérité publique, on ne peut pas parler de Dieu, ni dans une société donc, du siècle présent, séculaire. Dieu est absent du débat public. Et la foi, avec ses valeurs, les valeurs chrétiennes, sont reléguées à la vie privée. On peut croire en Dieu, mais on ne peut pas laisser ses croyances rentrer dans la vie publique. Elles sont privées. Et cette vision du monde prend racine déjà à la Renaissance, donc au XVIe siècle, vous voyez, ça remonte au moment où petit à petit la raison a pris le dessus. Rappelez-vous que Descartes disait « je pense, donc je suis ». Donc c'est la pensée, la raison, ce que je crois de moi-même qui est objectif, ce que Dieu pense de moi. C'est subjectif, chacun peut le croire pour lui-même, mais pas pour nous. Donc cette raison, ce rationalisme, est la seule vérité universelle, parce que les hommes cherchent quelque chose qui est universel, qui est vrai ici, qui est vrai en Afrique, qui est vrai en Inde, qui est vrai en Amérique, qui est vrai, voilà. Ils cherchent l'universel, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est à un monde, cet après-midi, il y a première fusée qui va monter. Pour les touristes, vous pouvez, avec Virgin Atlantic, vous pouvez voir la Terre en payant 200 000 dollars, je crois. Voilà, il va faire cet après-midi à 15 heures, le premier tour, pour ceux qui veulent voir la planète de haut. Vous voyez, donc, on cherche l'universalité, quelque chose qui est vrai pour tout le monde. Voilà. Parce que le christianisme, il fait concurrence à l'islam, donc il y a des guerres. Fait qu'on va à bouddhisme, au taoïsme, etc. Voilà. Et donc, la raison ne peut pas accepter cela parce que ça crée des conflits. Et si on se place de ce point de vue-là, on comprend. C'est logique. Mais nous sommes chrétiens. Nous avons un appel. Et donc, nous sommes en face de cette problématique. Donc, Leslie Newbegin a exhorté les chrétiens à s'engager dans la culture de façon missionnaire, en proclamant l'Évangile comme une vérité publique. Il désirait que les chrétiens réfléchissent aux implications de la vie politique. Alors attention, ce n'est pas le restaurationnisme, comme aux États-Unis, ils pensent qu'il faut s'impliquer en prenant domination. Ce n'est pas une domination, c'est une réflexion. Il faut réfléchir à la manière dont la Bible présente l'engagement politique, que c'est que la politique, c'est-à-dire le commun. Toute communauté a un commun. Dès qu'on sort de l'individu, on se rassemble, on a un commun. Donc il faut réfléchir à ça au niveau de l'Évangile. Il faut réfléchir à l'économie, à l'éducation, à l'enseignement, etc. Et donc il a encouragé les chrétiens à cela, afin que les gens dans cette culture à laquelle on s'adresse, eh bien, soit confronté aux affirmations de l'Évangile. Donc c'est une incarnation de l'Évangile dans des réalités qui sont vécues autour de nous. Ils ne défendaient pas le retour au christianisme, à la chrétienté. Ça, c'est une erreur aussi qu'il faut éviter. Pourquoi ? Parce que justement, l'Église catholique, c'est ce qu'elle essaie de faire. Elle essaie de revenir au christianisme par les traditions, en retournant le prêtre vers l'autel, etc. Vous voyez ? Bon, ils pensent ramener les gens à la foi. Non, ce n'est pas un retour au christianisme. Le christianisme, c'est quelque chose qui a été développé au niveau des multitudes sans la nouvelle naissance. Donc, ce n'était pas une bonne chose. Nous devrions proclamer la seigneurie universelle de Christ dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'il faut que le chrétien, là où Dieu l'a appelé, soit missionnel, soit ait un caractère missionnel. Christ est le roi qui règne en devenant serviteur, en donnant sa vie. Et c'est en donnant sa vie, à son travail, la manière dont on le fait, dont on agit, dont on réfléchit, dont on pense, qu'on est missionnel. C'est le modèle, ce modèle, qui donne forme à notre engagement dans ce monde. C'est la forme missionnelle. Paul mentionne des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est dans Romains, chapitre 1er, versets 18 à 25. Il dit « Des hommes retiennent injustement la vérité captive, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Paul s'adressait à l'époque à son auditoire. Mais aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que les idoles ne sont pas les mêmes. Quand Paul est allé à Athènes, il a regardé toutes les idoles, il a dit « Il y a même... une idole à un dieu inconnu, donc pour être sûr qu'il n'y a aucun dieu qui soit oublié. » Mais aujourd'hui, il y a aussi tout plein d'idoles. J'ai pu en parler au travers de livres que Timothy Keller a édité sur les idoles du cœur. Et la raison est une des grandes idoles qui conduisent au rationalisme, à l'amour de la raison toute puissante. C'est une idole, c'est l'idole qui, justement, amène à détruire le christianisme et la foi dans le domaine public. Si nous vivons dans le monde occidental, il ne faut pas imaginer aujourd'hui que ce monde est chrétien. Il n'est plus chrétien du tout. Il est païen. Il est complètement païen, et ça, ça s'est fait très, très vite. Et donc, nous sommes dans un défi de réévangéliser ceux qui nous entourent, mais de manière différente, en étant missionnel. Non pas en matraquant les gens avec l'évangile, mais en modelant, comme Jésus l'a fait. Jésus était un modèle. Jésus, il prêchait, mais il était celui qui a donné sa vie. Il a donné sa vie pour ses disciples, il a donné sa vie pour ceux qui venaient à lui. Il n'a pas ménagé sa façon d'être, et il guérissait aussi au passage, etc., il manifestait le royaume. Et c'est ce que nous devons être maintenant. Nous devons plutôt considérer l'espoir que donne l'Évangile, mais aussi le jugement. Parce qu'il y a le jugement à la fin. Autant dans l'Ancien Testament, il y avait la venue du Messie, autant maintenant, c'est le jugement qui va venir. Donc ça aussi, ça fait partie du message que nous devons porter, sans forcément, bien sûr, matraquer les gens avec ça, mais il y aura un jugement, et c'est grâce à ce jugement qu'il pourra y avoir un relâchement et une transformation, parce que l'ennemi sera jugé aussi et enfermé pour toujours. Donc, nous devons considérer le jugement et l'espoir que l'Évangile apporte. Dans notre culture, qui aujourd'hui est centré sur l'individu, hein, moi, 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 et le matérialisme, je veux ceci, je veux cela, etc. Et donc, on est en combat avec la Chine maintenant, qui produit tout ce qu'on a besoin sans arrêt. Et donc, vous voyez, on est de nouveau un nouveau conflit, un nouveau problème d'impérialisme qui est lié au matérialisme. Mais on n'est pas mieux que la culture arabe, que la culture chinoise, que la culture, toutes les cultures. Aujourd'hui, l'Occident n'a plus d'éléments chrétiens dans sa culture. Nous comprenons alors que notre tâche, est exactement comme celle de l'Église primitive. Nous revenons au point de départ. Ce que Paul a dit à l'Église primitive, eh bien aujourd'hui, ça s'applique à nous. Et le message de réconciliation entre les hommes et Dieu, c'est nous qui devons le porter. Il nous est confié. Nous sommes les ambassadeurs de ce message entre le siècle présent, séculier, et le royaume de Dieu, qui est déjà là, mais pas encore accompli, pas encore consommé. Et c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que vous trouvez cela. Nous sommes donc tous des missionnaires envoyés pour faire des disciples de Jésus. C'est dans Matthieu 18, versets 19 et 20. Donc je termine en rappelant que l'Église missionnaire poursuit cette vision. Donc missionnaire, hein, pas missionnel. Entrer dans la mission, donc dans cet envoi que Christ a donné à son Église, vivre et proclamer l'Évangile au monde. Alors que l'Église missionnelle poursuit cette vision, vivre en poursuivant la mission que Dieu a donnée à son Fils, qui est en cours, hein, puisque le jugement est à venir, racheter, sauver l'humanité et lui redonner son sens originel, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Cette relation qui a été rompue au moment du péché, eh bien, elle va être rétablie, elle doit être rétablie. Et c'est nous qui sommes les ambassadeurs de cette réconciliation. Donc nous devons entrer dans un engagement culturel, mais je réserve ça pour dimanche prochain. Comment nous pouvons nous entrer dans cet engagement culturel dans lequel il y a des défis. Il y a des défis non plus physiques, mais des défis idéologiques. Nous sommes dans des idéologies. Hein. Des idéologies, puisque les idoles sont devenues virtuelles, hein, bien qu'elles aient une matérialité, mais nous avons des défis culturels. Et nous devons faire face à ces défis culturels. Et la génération qui vient, donc celle qui est dans ces 20 ans qui viennent, dans cet appel missionnel de l'Église ici, en Bergenville, bientôt entrer là-dedans. Et ça, c'est le mandat de Pierre-André, avec les quadras, avec tous ceux qui sont avec lui, eh bien, d'entrer là-dedans. Sans négliger les familles, bien sûr, qui sont importantes, mais c'est ce défi que vous avez écrit sous la conduite du Saint-Esprit, et je vous le rappellerai la prochaine fois en vous montrant que toutes les valeurs que vous avez évoquées sont missionnelles. Donc nous avons un programme. Programme de 20 ans devant nous. Enfin, vous avez, nous avons, moi je vais vous suivre plutôt que vous devancer, mais voilà, c'est les forces vives maintenant doivent être orientées vers ce défi de l'Église missionnelle. Non plus une Église qui est assise sur des chaises en attendant que ça se passe, hein, mais une Église qui est engagée dans le monde, engagée dans la culture, engagée dans sa vie personnelle à tous les niveaux où vous êtes déjà. Hein, je me réjouis de cela. Mais encore plus avec des défis qui nous attendent, qui vous attendent et qu'il faut relever. Et en relevant ces défis, eh bien, nous ferons l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle et pour laquelle il va donner, bien sûr, des fruits. Parce que quand Dieu appelle, eh bien, et si nous obéissons à son appel, eh bien, il y aura les fruits. Et nous pouvons nous réjouir dès maintenant déjà de ce que dans 20 ans, vous pouvez voir tous ces fruits. Hein. Je sais qu'à un moment donné, dans les conversations qu'on a eues, Michel et moi, avec Pierre-André, on dit « Ah oui, mais on voudrait le gibouin en face. » J'ai dit « Oui, oui, je crois que vous l'aurez, mais ce sera un défi. Hein. » j'ai levé le défi de ce bâtiment-là, mais pas de l'autre. Hein. Ça, c'est pas mon défi, ce sera le vôtre. Hein. Ce sera ceux qui veulent bien rentrer dans ce défi-là. Hein. Ceci étant, c'est un défi, un challenge qui est tout à fait possible, avec Dieu, bien sûr. Humainement, je ne vois pas comment, mais avec Dieu, oui. Mais c'est un défi. Et c'est peut-être pas moi qui vais le relever. Moi, j'ai fait ma part, mais je suis de tout cœur avec vous pour qu'un jour, eh bien, ces deux bâtiments soient à la gloire de Dieu et puissent servir l'avancement du royaume. Mais chacun sa part. Et cette génération qui vient, eh bien, à ce défi de l'Église missionnelle, entrer dans la culture du royaume en le manifestant publiquement, dans le public, et pas juste dans le privé, mais de manière, bien sûr, intelligente, de manière pensée, de manière réfléchie, de manière posée. Et pour cela, eh bien, vous devez avoir des forums de réflexion, vous devez travailler, faire un travail sur vous-même, sur la communauté, etc. Et c'est ce défi qui vous attend. Et je m'en réjouis, parce que je sais qu'il va y avoir du fruit à la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui conduis l'histoire, qui conduis l'Église, qui conduis Seigneur cette Église. Et je te la remets afin que Seigneur ce défi qui est devant Seigneur pour être une Église missionnelle, eh bien, puisse être Seigneur levé, que cette jeune génération ne puisse pas échapper Seigneur à ce défi, mais le relever pour rentrer dedans. Seigneur, parce que tu veux que cette Église puisse te glorifier ici et maintenant, pas simplement dans l'éternité, mais maintenant, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as envoyés dans le monde pour être des ambassadeurs. Et nous te remercions pour cela. Je te remercie déjà pour ceux qui se sont levés, c'est surtout des femmes, je vois, mais Seigneur, que des hommes aussi se lèvent pour relever ces défis missionnels, ces défis culturels, ces défis, Seigneur, dans tous les domaines, pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié dans cette Église et dans cette région, et dans ce grand Paris sénéoise, Seigneur, qui vraiment est là pour être un témoin dans cette région. Nous te prions au nom puissant de Jésus. Amen.